France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Valentine Zuber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, université PSL, titulaire de la chaire Religion et relations internationales. Vous êtes spécialiste de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Et par ailleurs, vous êtes vice-présidente de la Vigie de la laïcité. Nous allons réfléchir aujourd'hui avec vous à la question de la laïcité, à son actualité ou à son inactualité, tant il est vrai que nous célébrons cette année le 120e anniversaire de la loi de 1905 et que la question de savoir si nous vivons dans une société apaisée du côté de la laïcité se pose. D'où l'importance du regard de l'historienne que vous êtes, Valentine Zuber, face aux instrumentalisations politiques toujours vives de cette question. La commémoration étant elle-même un moment, sinon d'instrumentalisation politique, du moins de choix politiques ou idéologiques. Alors, selon vous, que retenir d'essentiel dans cette loi que nous trouvons si importante à l'Union rationaliste de 1905 ?
Écoutez, c'est bien de commencer par là, parce qu'effectivement, cette loi 120 ans, c'est assez remarquable hein, pour une loi qui traverse les républiques, puisque c'est une loi qui a été faite par la Troisième République, qui a persisté sous la Quatrième, après la parenthèse de l'État Vichy, et qui a été reprise telle quelle par la Ve République. Donc c'est une loi absolument essentielle qui répond à ce qu'il y a dans la Constitution, c'est-à-dire que la République est dite, entre autres, une République laïque. Et cette loi, elle permet, si vous voulez, de caractériser le type de laïcité que nous privilégions en France. Alors elle est importante pour trois grandes raisons. La première, c'est que c'est une loi de liberté, puisqu'elle assure, elle fait de l'État le responsable de la liberté de conscience, de la garantie de la liberté de conscience et d'expression religieuse, ou non d'ailleurs, dans l'espace public. Mais elle fait aussi la garantie de l'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions, qu'elles soient religieuses ou philosophiques. Et enfin, elle précise qu'aucune discrimination ne peut être faite envers quelconque personne en raison de ses convictions, qu'elles soient là, encore une fois, religieuses ou philosophiques.
Dans votre très important ouvrage « La laïcité en débat », paru en 2020 au Cavalier Bleu et réédité d'ailleurs en poche en 2023, vous distinguez, Valentine Zuber, une laïcité d'abstention et une laïcité de reconnaissance et de contrôle, comme il vous semble décisif de distinguer la laïcité comme principe juridico-politique et la laïcité de type idéologique et sécuritaire. Est-ce que vous pourriez éclairer les auditeurs de France Culture sur ces distinctions ?
Oui, tout à fait, parce que, en fait, sous le vocable laïcité, il y a plusieurs compréhensions qui se heurtent finalement dans le débat public. Alors, il faut bien distinguer la laïcité comme principe juridique de séparation entre les deux sphères, qu'est la sphère temporelle, celle de l'État, et la sphère privée, celle des convictions, qu'elles soient religieuses ou non. Et puis, ensuite, distinguer ce qui relève de la manière dont on considère la place des religions ou des convictions philosophiques dans l'espace public, mais en tant que citoyen. Donc, il y a bien deux niveaux. Il y a ce qui relève de la loi de l'État et ce qui relève de la conviction personnelle. Et c'est pour ça que les débats sont si compliqués en France, c'est qu'on confond très souvent les deux. Et on confond le principe juridico-politique avec l'option philosophique ou religieuse.
Et laïcité d'abstention et laïcité de contrôle ?
Alors ça, c'est un des catégories que j'ai créées parce que il m'a semblé important de bien noter que la laïcité, étant une liberté, elle fait partie du catalogue des droits humains qui nous sont garantis depuis 1948, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à ce titre, elle est un principe extrêmement important des pays démocratiques, des pays qui respectent l'état de droit, qui respectent les individus. et les droits humains de ces individus. Or, parfois, les formes juridiques prises par les laïcités dans ces mêmes pays démocratiques peuvent beaucoup différer. Ainsi, il y a des laïcités de type séparatiste, c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Mexique, c'est le cas au Japon, c'est le cas jusqu'à peu en Inde, et il y a des laïcités plutôt de contrôle ou de reconnaissance, c'est le cas par exemple en Belgique, où plusieurs cultes, et même un culte non religieux, si je puis dire, enfin une organisation non religieuse comme la Libre Pensée, sont reconnus par l'État et subventionnés comme option religieuse ou philosophique. Donc il y a plusieurs manières, si vous voulez, d'assurer l'égalité entre les citoyens, d'assurer la liberté de conscience dans la société et de lutter contre les discriminations.
Comment faire pour que, à l'heure d'un monde de plus en plus ouvert, les individus composant les minorités ne soient pas injustement craints, méprisés, rejetés ? Et comment le faire à l'heure de la prise de pouvoir de l'extrême droite en Europe et dans le monde ?
Alors vous me posez une vaste question qui
Excède
largement le débat sur la laïcité, mais néanmoins on en voit des effets dans les débats médiatiques ou politiques actuels autour de la laïcité. On a un peu l'impression à notre époque que toutes les religions ont admis le principe de laïcité, en France en tout cas, et sauf qu'il y a une religion qui apparaîtrait comme moins à même de le reconnaître pour des raisons théologiques, etc. Et donc là, on est vraiment dans une instrumentalisation du principe de laïcité en refusant finalement la possibilité, l'accès à une certaine forme religieuse parmi d'autres. Et cela, ça va bien tout à fait à l'encontre de la loi de 1905 qui fait que l'État est neutre et équitable et que cet État ne choisit pas parmi les convictions de ses citoyens. Alors après, comment faire pour préserver les minorités ? C'est un combat depuis toujours, c'est un combat millénaire en Europe, ça continue de l'être dans beaucoup de pays du monde. Les minorités, qu'elles soient religieuses ou ethniques, sont très souvent discriminées. Et à cela, bien au-delà du principe laïque, c'est celui de l'égale dignité des êtres humains à travers les droits de l'homme qui prévaut.
Valentine Zuber, ça rejoint votre autre préoccupation du respect des droits humains.
Oui, parce que comme j'essayais de le dire et je veux le redire, la laïcité pour moi incluse dans les droits humains. C'est illustré par les grands articles sur la liberté de religion et de conviction. Pour la Déclaration universelle, c'est l'article 18. Pour la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 9. Et ces articles, donc, associés à ceux qui garantissent la liberté d'expression, sont les deux sources, si vous voulez, d'une laïcité bien comprise.
Comment faire également pour qu'une plus grande concorde règne entre les différents mouvements laïcs ? Parce que on assiste à des combats souvent fratricides et souvent, je crois, autour de la question de l'islam, alors qu'il serait temps que les mouvements laïcs se retrouvent plutôt que se combattent.
Oui, certainement, mais ça n'est pas une nouveauté historique, si vous voulez. Au moment de la préparation et du vote de la loi de 1905, il y a eu plusieurs projets concurrents. Et parmi les laïcs, enfin ceux qui s'autoproclamaient laïcs et qui voulaient prôner ce principe de laïcité dans la législation nationale, il y avait différentes interprétations, tout comme aujourd'hui. Alors, la religion qui posait problème au début du XXe siècle, c'était pas l'islam, c'était la religion catholique et ses prétentions politique, à régenter le politique. De nos jours, la religion qui apparaît comme étant la plus menaçante, si vous voulez, parce qu'il y a un aspect comme ça qui est très entretenu dans le débat, la religion qui apparaît la plus menaçante et la moins à même de respecter les valeurs de la République, ce serait l'islam. Donc le camp des laïcs s'est toujours divisé face à l'attitude à avoir face à des mouvements religieux anti-modernes et qui ont du mal à accepter les règles du vivre ensemble de la société, de le considérer. Donc, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à ce que le camp se déchire. Et là, actuellement, si on en revient vraiment à de nos jours, on voit très nettement deux camps, hein, ceux qui insistent pour qu'on reste ferme sur les principes et sur la séparation des sphères, mais tout en étant libéral dans la possibilité pour n'importe quel individu d'avoir les croyances de son choix. Et puis un camp qui se dit plus républicain et qui voudrait, inculquer une sorte de morale commune qui devrait être admise par tous pour être considéré comme un citoyen à part entière.
Dans ce camp-là, il me semble que c'est créé comme un mythe, ou si je vous ai bien lu, ce que vous considérez comme un mythe d'une laïcité à la française, qui serait fixe, figée.
Dans ce camp-là, oui, il y a une forte composante identitaire qui dirait que la laïcité est une exception française, une invention républicaine, et que toutes les autres formes de laïcité en seraient des formes moins légitimes, parce que moins abouties. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très franco-français, parce que chaque pays, à sa manière, à travers son histoire, et voilà, a géré la diversité religieuse, le pluralisme religieux, mais aussi la sécularisation de la société et les demandes des personnes qui décident de ne pas croire ou qui ne sont pas concernées par une conviction religieuse. Donc on est vraiment là dans une question qui est lié à la gestion du pluralisme, et ça paraît très dangereux de devoir rétrécir les droits de certains au motif que ceux-ci ne seraient pas entièrement persuadés de la philosophie républicaine. Donc, je crois vraiment que la laïcité telle qu'elle a été imaginée par les républicains de la Troisième République, par Aristide Briand tout particulier, mais aussi Jean Jaurès, c'est une laïcité qui permet même aux intolérants d'être tolérés sans qu'ils mettent en danger le pouvoir et la société, mais qu'ils coexistent de la manière la moins imparfaite possible.
Je comprends bien que vous dites d'une certaine façon que la laïcité a toujours été l'objet de combats fratricides, mais en même temps, les choses se sont crispées, me semble-t-il, autour de l'islam, il y a une trentaine d'années.
Oui, oui, oui. Ces débats débutent d'ailleurs de manière tout à fait intéressante à la fin des années 80, au moment où de grands bouleversements géopolitiques existent, ainsi avec la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi la fin de la contestation étudiante réprimée dans le sang en Chine sur la place Tiananmen. C'est 10 ans après la révolution théocratique iranienne, et c'est la fatwa de Salman Rushdie. Et c'est à ce moment-là, finalement, 1989, que débutent ces affaires dites du voile islamique à l'école, qui vont empoisonner le débat sur la laïcité pendant plus de 30 ans.
On n'en est pas sorti.
On n'en est pas sorti. Vous voyez bien, la dernière occurrence en date était la question de l'abaya à l'école publique en octobre 2023, enfin la rentrée 2023. Ça peut ressurgir à tout moment, et les sorties de notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avant le début de l'année, sur la possibilité ou le vœu d'interdire le voile islamique à l'université, ou encore ce débat autour des mères accompagnatrices de sorties scolaires, montre que on n'en est pas sorti.
Bien sûr. Alors, dans votre dernier livre, coécrit avec Blandine Chélini-Pont, toujours au Cavalier Bleu en 2024, intitulé « Géopolitique des droits humains », vous vous posez la question de savoir si les droits humains vont être dilués dans le relativisme ambiant, ce qu'on pourrait craindre également pour le principe de laïcité, faisant de ces deux exigences des combats à défendre absolument. Valentine Zuber.
Oui, il faut toujours en revenir à leurs racines. Et alors, pourquoi ils ont été institués? Pourquoi on a eu besoin de la laïcité? Pourquoi on a eu besoin de statuer sur la dignité des personnes humaines et de leur garantir leurs droits et pas seulement leurs devoirs? C'est extrêmement important pour l'égalité et la liberté et le vivre ensemble dans nos sociétés, mais aussi dans les sociétés extérieures. Et en fait, ces principes n'ont jamais cessé d'être combattus, d'être contestés. Donc c'est un combat de tous les jours. Ils sont contestés par les églises, ils sont contestés par certains mouvements religieux, ils sont contestés par des dictateurs, ils sont contestés par des mouvements politiques. Ils sont tout le temps contestés et on le voit là encore très récemment avec Donald Trump et sa nouvelle administration qui n'a pas fait mystère de sa défiance vis-à-vis de ses droits universels. Donc on est là vraiment dans un combat de tous les jours et il faut tenir bon.
Et donc, comment appelez-vous les auditeurs de France Culture à rejoindre ce combat ?
Eh bien, je pense en étant vigilant, en essayant de recouper les informations, d'avoir une hygiène, je dirais, intellectuelle comme celle des journalistes, comme celle des chercheurs, c'est-à-dire ne pas croire les événements sensationnels sans réfléchir et sans voir leurs aspects moins évidents. Et donc, c'est vraiment une hygiène de vie à la fois intellectuelle et éthique à laquelle j'appelle tous les citoyens.
Valentine Zuber, je vous remercie.
Eh bien, merci à vous.
Je rappelle un ancien numéro de Raison Présente, une laïcité pour l'avenir que vous pouvez retrouver sur le site percé.fr. Je rappelle également le prochain numéro de Raison Présente très lié à la question dont nous venons de discuter, résistance et faiblesse de l'état de droit. Je renvoie à la fois au site de l'Union rationaliste comme à celui de la Vigie de la laïcité. Je rappelle les deux ouvrages de Valentine Zuber, parus au Cavalier Bleu, La laïcité en débat et avec Blandine Chélin-Nippon, Géopolitique des droits humains. Je remercie à la technique Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Jean-Christophe Francis et au site de France Culture, Claire Poinsignon. Je vous dis au mois prochain.